L'émir Khaled était-il le premier nationaliste algérien? Sa pensée politique était basée sur la dénonciation des inégalités du système colonial, sur l'exaltation de l'attachement à l'islam et aux valeurs de la société algérienne. Petit-fils de l'émir Abdelkader, l'émir Khaled avait une mission d'intérêt national à accomplir et se devait donc de rétablir l'État algérien. L'émir Khaled est une grande figure de la vie politique algérienne et un acteur actif de l'histoire de la pensée nationaliste de ce pays. Le succès de la formule de l'émir Khaled était dans le fait de mettre en évidence le génie d'un peuple que nul asservissement ne pouvait éloigner de son attachement à la conquête de la liberté. Il géra au mieux les contradictions politiques et humaines que pouvait subir un homme politique au début de ce siècle. L'émir Khaled a été par ses écrits, par la violence de ses déclarations, par certaines de ses revendications, par ses réquisitoires contre le colonialisme, en avance sur son temps. Il fut le leader d'un contexte où l'étoile nord-africaine inscrivait dans son programme l'idée fatale pour le colonialisme, l'idée de l'indépendance.
طواتكم عسيت الواولا وهجرتمني ولا خفت من عذاب
Khaled ibn al-Hashmi ibn al-Hajj al-Abdelkader, connu sous le nom de l'émir Khaled, est le petit-fils de l'émir Abdelkader. Né le 20 février 1875 à Damas, Khaled y passa toute sa jeunesse. On écoute M. Hassani Hider, chercheur, cousin de l'émir Khaled.
Il est né dans cette famille qui a été élevée dans des traditions de patriotisme, de combat pour la liberté, de combat pour l'être humain d'ailleurs. C'est au-delà de sentiments chauvins, patriotiques simplement. C'est un combat universel, un combat très large d'esprit noble.
Et quel lien de parenté aviez-vous avec l'émir Khaled?
En fait, Khaled était le cousin germain de mon père et de ma mère. Et c'est, dans cette famille, nous avons beaucoup d'intermariages dans la famille. Ça veut dire que c'était un homme qui est très proche de moi par parenté. Et puis un homme que j'ai admiré beaucoup. Mais j'ai mis du temps pour admirer Khaled. Quand j'étais tout enfant, moi, j'entendais parler de Khaled. On dit « Rahl Zahir, Rahl França ». Ça veut dire qu'il est allé chez l'occupant. Et on le reprochait ça à Khaled. On disait presque, c'était un traître parce qu'il a parlé avec les Français. Parce que chez nous, dans la famille, on ne pouvait pas faire ça. Mais avec la maturité politique, quand j'ai pris connaissance de la politique de façon sérieuse, j'ai commencé à comprendre que c'était un stratège, un homme qui voyait loin. Et d'ailleurs, un ami qui est présent avec moi ici, il dit qu'on a mis la lumière sur l'intermédiaire de l'émir Khaled, mais on n'a pas mis la lumière sur les buts et finaux et les perspectives que Khaled avait dans son cœur et dans sa pensée. C'était un homme de réflexion, c'était un homme de perception, c'était un homme qui exigeait d'obtenir les droits exigeables, possibles à faire céder par les Français, mais qui ne affichait pas le but final immédiatement. Et vous pouvez citer d'autres historiens comme Talib Abdelrahim, comme Qaddash et d'autres qui ont parlé de cette perception de Khaled, cette capacité de Khaled de percevoir l'avenir, d'avoir une vision de perspective qui m'a empêché, moi, quand j'avais 7 ans, de le voir comme patriote. Mais aujourd'hui, comme j'ai pris conscience de cette politique et de la science politique, je vois en Khaled le patriote idéal. En fait, qui est l'homme qui a semé dans ce peuple l'esprit patriotique avec un combat conscient de pas par pas exiger ce qui est acceptable, ce qui est possible d'obtenir. On peut se heurter à un mur, mais Khaled, qui n'était pas communiste, certes, mais qui avait une démarche en fait communiste, c'est de créer la brèche dans le mur. Ne pas se heurter au mur avec la tête et casser la tête, mais créer la brèche et creuser doucement avec une action persévérante, avec une action qui durable, qui arrive à démolir les murs. Le mur, c'est notre ennemi. L'ennemi, c'était le colonialisme. Aujourd'hui, notre ennemi, c'est l'intolérance. Notre ennemi, aujourd'hui, c'est le fanatisme. Notre ennemi aussi, c'est aujourd'hui, c'est la perspective grave et noire que affronte ce pays, qui est le fascisme possible par l'intermédiaire des idéaux qui sont nobles, mais qui sont déformés par des gens qui sont fanatiques.
Mansour, dans quel contexte est né l'émir Khaled?
La naissance de l'émir Khaled s'est faite au moment de l'épopée des grandes résistances populaires et elle s'est faite également dans un climat de mesures répressives contre la population musulmane. En effet, il faut se souvenir des insurrections des Aurès de 1859 et de 1879, de la résistance d'Al-Muqrani en 1870, du soulèvement des Oulad Sidi Chir dans le sud oranais en 1864 et des insurrections sporadiques de la Kabylie en 1858 et en 1860.
En 1882, au cours d'une cérémonie dans une mosquée de Damas, l'émir Abdelkader avait réuni toute sa famille et sa suite, et après une grande prière, son petit-fils l'émir Khaled, alors âgé de 7 ans, avait été solennellement sacré dauphin, donc successeur de son grand-père, pour rétablir l'État algérien. On retrouve Haider al-Hassani, son cousin donc, qui nous parle de l'émir Khaled.
Moi, j'imagine la situation, pas de Khaled, mais de son père Hashmi, qui était le fils de Abdelkader. J'imagine sa situation parce que je l'ai vécu à mon âge. Cet état d'exilé, ce que j'appelle moi la situation de cette famille et de tous les Algériens qui ont vécu, été forcés à l'exil, c'était une situation de déchirement. Et malgré qu'ils étaient dans un pays arabe, musulman et tout ça, ils étaient éloignés de leur patrie, de leur propre maison. La maison, c'est l'Algérie, pas la petite maison, mais leur maison, c'était l'Algérie. Et je crois qu'Hashmi, avec son tempérament, le père de Khaled, ne pouvait plus supporter la vie en Syrie. Et il a fait tout pour revenir dans son pays. En fait, il a dû céder des choses, on peut le traiter de toutes les compromissions possibles, les historiens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, mais l'objectif de Hashmi, c'était de revenir dans son pays, et il était obligé de s'adresser aux Français, et les occupants, qui dominaient dans l'Algérie, il leur a demandé de le laisser venir vivre et mourir dans son pays. Et c'est comme ça qu'il a amené Khaled lui-même qui est né en Syrie, et Mustafa, son frère, le frère de Khaled, il les a amenés avec lui, ils sont venus à l'Algérie.
Vers quel âge, on ne savait pas
L'âge de Khaled, c'était, oui. Ça ne doit pas être plus que 15 ans. Oui. L'âge de lycée, mm-hmm. Je pense, vous avez les dates mm-hmm. mieux que moi, mm-hmm. parce que je n'ai pas de référence sous les yeux. Mais je crois que c'est à cette époque-là, quand il est venu le Hashmi ici, il a finalement été amené à faire ce qu'il
des
peut
conditions?
Faire. Des conditions difficiles. En fait, il espérait rentrer dans son pays, mais les Français, comme ils étaient toujours traîtres, même avec l'émir Abdelkader, quand le Hashmi est arrivé ici, au lieu de le laisser vivre tranquille, ils ont dû voir que les Algériens s'entouraient de lui, s'attroupaient autour de lui, que ça leur posait des problèmes. Alors, au lieu de le laisser vivre tranquillement, ce qu'il cherchait d'ailleurs, Hashmi, de son tempérament, de ce que je sais de lui par l'histoire de ma famille, c'était un homme qui voulait vivre sa vie tranquillement. Et au lieu de le laisser vivre tranquillement, ils l'ont exilé à Boussaada, exil intérieur, et forcé à résidence, en fait. Et c'est comme ça qu'il était, il a passé un bon moment à Boussaada, dans des conditions très pénibles, d'ailleurs. Il faut le dire, de cette famille, tout. Les Français n'ont pas donné l'égard qu'il fallait à un homme comme Al-Hashmi. Et je crois qu'il a été amené à envoyer son fils à Saint-Cyr.
Mansour, on dit que l'émir Abdelkader avait donné des consignes précises quant à la carrière de l'émir Khaled.
Effectivement, Ahmed Belroul raconte que le grand émir Abdelkader avait donné des consignes précises à son fils El-Hashmi, père du jeune émir Khaled, pour que celui-ci, ses études terminées, entre à la célèbre école militaire de Saint-Cyr, afin d'apprendre l'art de la guerre, seul moyen de libérer notre patrie. Il souhaitait également que tout Algérien soit incorporé dans l'armée française pour que le moment venu, les connaissances acquises soient utilisées contre le régime colonial. Je tiens à préciser que Ahmed Belroul était commerçant à Paris, il était compagnon de l'émir Khaled et son représentant dans les années 20.
I'm
على جبل ديك العبرة والكواكب ما السهرة في بسم الله عليها والشمس ينالي سيف العبرة لا تليها
La famille de Lémi Khaled se fixe en Algérie en 1892. D'Alger, Lémi Khaled est envoyé au lycée d'Oncle Louis le Grand à Paris. En novembre, il est admis à l'école militaire de Saint-Cyr sur l'insistance de son père. On écoute Madame Nadia Bouzard-Kasbadi, professeure à l'école normale supérieure.
C'était une nature exceptionnelle. Une nature exceptionnelle pourquoi ? Parce qu'il était marqué par le destin familial. Son grand-père, donc l'émir Abdelkader, a été l'un donc, des grandes personnalités donc, du 19e siècle. Et le père de Khaled al-Hashmi a subi le contre-coup de la défaite du père et a subi toutes sortes de vexations, toutes sortes d'humiliations, d'exil, etc. Or, donc Khaled a vécu. Il faut se mettre au niveau de l'enfance de Khaled, qui a vu cette famille exilée, bafouée, et qui vivait certains privilèges, mais des privilèges formels, en réalité. Et il a grandi, donc, en tant que témoin d'une famille qui vivait un drame. Et il a vécu, il a été formé, il a reçu une formation, une culture française, et il avait cette culture familiale, religieuse et arabe. Donc il a toujours vécu ballotté entre ces deux cultures et ballotté entre cette situation de privilège apparente, qui n'en était pas en réalité parce que la famille souffrait. C'était un personnage, il avait une forte personnalité, c'était quelqu'un qui avait quand on lit certains témoignages, qui avait le verbe haut, qui défendait ses opinions. Et ce qui est intéressant chez ce personnage, c'est qu'il a su, je le perçois comme un insurgé, comme un révolté. Mais il était très difficile de manifester cette révolte, car l'autorité militaire, d'abord, puisqu'il relevait de cette autorité militaire, était féroce, et l'administration civile également. Pour en revenir à cette notion de légende, pourquoi y a-t-il une légende Khaled? Pourquoi le perçoit-on comme un personnage assez exceptionnel? C'est parce qu'il s'est débattu et qu'il a mené une action. Il a mené une action qui était une action par à-coup, au départ, avant de s'installer comme homme politique. Hein, il était comme un jeune étalon. Qui se révoltait et ce n'était pas construit. Il n'y avait pas une approche construite. Il avait ses humeurs. Pourquoi ? Parce qu'il vivait des contradictions et une chose qui l'a toujours révolté, c'était la situation, l'abominable situation dans laquelle se trouvaient ses co-religionnaires. Et là, il a tenu il a tenté de mener une action politique de type moderne, c'est-à-dire en faisant des conférences, en faisant des tournées politiques, etc.
Mansour, a-t-on un portrait de Lémi Khaled ?
Oui, Vassi, qui était intendant de l'émir Hashmi, fait en 1893 un portrait de l'émir Khaled. C'est un grand garçon de taille allongée, de forte corpulence, au dehors physique assez proportionné, avec une silhouette très ordinaire. C'est un ténébreux, avec des traits rares et peu profonds, un comploteur. Par instant, il semble louché. Ce fâcheux caprice du nerf optique ne contribue pas à embellir cette énigmatique figure qui n'a rien en soi d'harmonieux et de juvénile. Les indices certains d'une dissimulation savante et opiniâtre se révèlent dans cette prunelle noire qui fixe, évolue et se dérobe avec une égale rapidité. Ce garçon doit aimer l'obscurité et le silence propice aux ténébreux desseins. À la page 119 du manuscrit, Vassé ajoute « Le petit-fils aîné d'Abdelkader n'est donc en résumé à mes yeux qu'un arabe policé par la civilisation, mais son grand-père, en mourant, ayant emporté dans sa tombe le secret de sa grandeur, il est fort improbable que ce jeune et belliqueux prince arabe le retrouve jamais. C'est pourquoi il semble voué à perpétuellement dévorer sa rage, son impuissance à ne pouvoir chasser le Rumi maudit de son royaume conquis et rendre sa gloire au prophète. »
On écoute M. Qadesh qui est auteur d'un ouvrage sur l'émir Khaled, et la question qu'on aimerait lui poser, est-ce qu'on peut dire que l'émir Khaled était un privilégié ?
L'émir Khaled, le petit-fils de l'émir Abdelkader, est entré sur la scène algérienne lorsque la famille, les descendants de la famille d'Abdelkader sont revenus en Algérie. La France donnait une pension aux descendants d'Abdelkader, et c'était une clause de traité qui avait été signée avec l'émir. Donc il touchait sa pension, il ne la touchait pas régulièrement parce que Khaled a eu à plusieurs occasions la possibilité d'intervenir auprès des autorités pour réclamer que son père touchât la pension à laquelle il avait droit. Privilège, vous dites parler des écoles, il a suivi, comme la plupart des fils de grandes familles, les premiers étudiants, les premiers élèves des lycées. Il a fait ses études à Louis-le-Grand, à Paris, et ensuite il a préparé Saint-Cyr, et il a tenu à préparer Saint-Cyr à titre indigène, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu bénéficier des grades qui étaient offerts uniquement aux citoyens français. Et à partir de ce moment, on sent une résistance à l'ordre colonial de la part de Khaled. Lorsqu'il venait à Alger, par exemple, il se hâtait d'ôter sa tenue de Saint-Cyrien pour aborder la tenue algérienne. Et ça, c'était mal vu du côté des Français, mais c'était pour le jeune Khaled une façon d'exprimer son refus de l'ordre colonial. Il a été amené à prendre position sur les problèmes algériens à partir du moment où il y a eu la rencontre avec ce qu'on appelait à l'époque les jeunes Algériens. Les jeunes Algériens, ce sont les Algériens qui avaient reçu une formation davantage dans les écoles françaises que dans les écoles arabes, et qui, par conséquent, savaient manier les concepts politiques utilisés à l'époque. Et un courant parmi les jeunes Algériens, ce qu'on a appelé les jeunes Algériens, c'est-à-dire un courant politique, s'est organisé à partir du début du XXe siècle, et plus particulièrement à partir de 1910-1911, lorsque les jeunes Algériens ont commencé à réclamer des droits. Alors, dans quel contexte ils ont réclamé des droits ? Ils ont réclamé des droits, l'égalité avec les citoyens français dans tous les domaines, mais en conservant le statut personnel, c'est-à-dire en se référant toujours à la charia islamique en ce qui concerne le statut personnel. Et là, c'était déjà à l'époque une forme de manifestation qu'on peut appeler nationaliste. Et sur le plan politique, les jeunes Algériens demandaient à participer donc à la vie politique comme les Français, mais dans le statut musulman.
En 1895, l'émir Khaled quitte l'école militaire sans y avoir terminé ses études. Il revient à Alger et se fait remarquer par son indépendance d'esprit et par ses critiques contre l'administration. Il fréquente les jeunes Algériens, cherche à s'enfuir à l'étranger pour entreprendre une action politique. La famille de l'émir El-Hashmi est assignée à résidence forcée à Abu Saada. On retrouve M. Qadesh, l'historien.
La famille de l'émir Abdelkader, c'est la famille qui était chef de tribu autour de la région de Mascara. Et le père de Mahiedine était un homme religieux, un homme qui était respecté par sa tribu. Et lorsque la résistance algérienne a commencé, il a cédé sa place au jeune émir Abdelkader, qui était plus jeune, plus combatif, et qui par conséquent pouvait davantage représenter la famille sur le plan militaire. C'est ça l'origine de, Et c'est le combat qui a été mené de 1833 jusqu'en 1847, pendant près de 17 ans, plus de 17 ans. C'est ce combat qui a assis la fortune, si vous voulez, nationale de la famille de l'émir Abdelkader. Abdelkader ayant été battu, fait prisonnier, bon, il a été exilé en France, puis à partir du Second Empire, il a pu aller vers le pays de son choix. Il a choisi la Syrie. La Syrie, c'était un pays arabe.
Ouais.
Et il y avait cette possibilité, la Syrie ou l'Égypte, bon, il a choisi la Syrie. Et la famille a été élevée là-bas. Et ensuite, quand la famille, le père de l'émir Khaled est revenu en Algérie, bon, il s'est installé à Alger, puis on l'a obligé ensuite à résider à Boussada, et ensuite il est revenu à Alger. Et c'est l'émir Khaled a tiré, si vous voulez, profit du prestige de sa famille et du prestige de son grand-père, et puis de son prestige personnel, d'abord un homme cultivé en arabe et en français, et puis un homme qui s'est engagé aux côtés de ceux qui essayaient de réclamer l'amélioration du sort des musulmans algériens.
Mansour, comment la famille de l'émir Khaled a-t-elle été accueillie à Boussaada?
La famille de l'émir Khaled fut bien accueillie à Boussaada. Un grand nombre de musulmans chargés de viande, de fruits et d'autres comestibles vinrent lui rendre visite. Selon Vassé, qui était l'intendant de l'Hashmi, il paraissait heureux de l'arrivée de ce dernier, avait pour lui une grande estime. Il lui disait que l'émir el-Hashmi, auquel il donne la qualification de grand marabout, ne manquera jamais de rien, ni personne de sa famille, ni ses serviteurs à Boussaada. La popularité des descendants de l'émir Abdelkader était très grande, et les autorités militaires ne pouvaient empêcher les Algériens de prendre contact avec eux, surtout à l'occasion de leur visite à la mosquée.
باي والحكم في يد نصارى بعد ما كنت سلطان معيشتي بالدنيا خسارة يا ارواح شوف الزينة
L'émir Khaled est le petit-fils de l'émir Abdelkader. Il est né à Damas le 20 février 1875. Il est en Algérie en 1892. Baccalauréat, puis bourse pour le lycée Louis le Grand à Paris. C'est ensuite à l'école militaire de Saint-Cyr, mais il démissionne. Il est réadmis à Saint-Cyr et en sort sous-lieutenant à titre indigène. Il est mis en résidence forcée à Boussaada à cause de ses tentatives de fuite en Égypte. La résidence forcée est levée en 1896. Les autorités militaires consentantes, son père aidant, l'émir Khaled est réadmis à Saint-Cyr. On écoute M. El-Hassani Hider, chercheur, cousin de l'émir Khaled.
Les Français refusaient à cette famille, à tous les membres de cette famille, de mettre le pied sur la terre algérienne. Il nous permettait à nous tous, jusqu'à mon âge, moi, quand j'étais enfant, je pouvais aller en France, mais pas en Algérie. Je pouvais avoir tout ce que je voulais en France, l'éducation libre, free, payée par les Français, mais pas venir en Algérie. Et c'était ça, en fait, ce qu'on on reprochait, nous, dans la famille. Pourquoi Hachmi a accepté de venir en Algérie sous l'occupation française? C'est un sentiment un peu fanatique aussi, oui, de notre part. Et il a été amené dans ces conditions d'envoyer son fils au lycée que vous connaissez.
Oui, non, je pose la question, je vous dis, bon, il choisit l'enseignement français, hein, parce qu'ici, on ne pouvait pas faire autre chose. Il fréquente le lycée Louis-le-Grand, puis Saint-Cyr. Mmh. Hein. Alors, en 1893, pensez-vous que c'était facile d'y entrer à Saint-Cyr?
En fait, ce n'était pas un choix. Bon, dans cette famille qui est élevée dans cette tradition de combat, de lutte, ça... L'armée, c'est attirant. Mais ce n'est pas pour aller dans l'armée française. Moi, mon sentiment personnel, même si ce n'est pas écrit dans l'histoire, j'aimerais mieux que vous vous référez un jour à l'ouvrage de Gilbert Meynier et de Ahmed Koulaksis qu'ils ont fait sur Emir Khaled, premier Zaïm, qui est édité chez l'Armatan. Ce n'est pas pour faire de la publicité, mais je crois que Hachmi, le père de Khaled, a été contraint à envoyer son fils suivre des études en français. Il était contraint aussi d'envoyer son fils à l'école militaire française qui est Saint-Cyr. Il se trouve que c'est Saint-Cyr. D'ailleurs, c'est un privilège, comme vous dites, d'aller à Saint-Cyr. Mais je crois que c'était une contrainte d'envoyer son fils à Saint-Cyr. Vous allez peut-être me poser la question, comment ça se trouve que Khaled a quitté Saint-Cyr? Il a quitté Saint-Cyr parce que au cours des premières... études qu'il a suivies à Saint-Cyr, il s'est avéré aux Français que ce n'était pas un homme docile, Khaled. Ce n'était pas comme il croyait, il allait se soumettre à leurs souhaits et à leurs vœux. Alors c'est comme ça qu'il a quitté Saint-Cyr, en fait. Et il a rejoint son père à sa résidence. Et le... oui. C'est pas la raison. Absolument, je vous assure que le retour de Khaled, le fait que Khaled a quitté Saint-Cyr, c'était pas pour rejoindre son père malade. Au contraire, il a quitté Saint-Cyr sous les pressions, les contraintes et puis les accrochages qu'il a eu avec les officiers français parce que c'était l'Algérien qui n'était pas dans son milieu, qui n'était pas dans sa peau, dans cette école militaire. Mais il était brillant, que ce soit au lycée, Louis-le-Grand, ou à Saint-Cyr. Il a quitté Saint-Cyr, il a rejoint son père. Et je crois qu'ensuite, son père a réfléchi, et puis, puisqu'il a commencé des études militaires, il a dit qu'on les termine. Même chez l'ennemi, on peut faire des études militaires, c'est pas négatif qu'on a fait des études militaires. Oui, et c'était un officier brillant, en fait, Khaled, dans ses études.
Oui, en effet, Khaled a honte de se montrer devant les Arabes en tenue de Saint-Cyrien, rapporte l'intendant de l'émir Hachmi, ce qui vient confirmer les propos de M. Hassani. Ses co-religionnaires, les co-religionnaires de l'émir Khaled, le regardent en effet d'un air de profond mépris, et dans quelques-uns même affectent de cracher en passant près de lui. L'émir Khaled, lors de sa seconde permission, commence à en avoir marre de l'école, menace de ne pas y retourner et de proposer sa démission. Mais son père, Al-Hachmi, expose un certain nombre de conditions que Khaled lui avait dictées. Premièrement, avoir la liberté de changer de régiment de façon à se trouver toujours dans la même ville d'Algérie. Et deuxièmement, il a demandé qu'il ne fût point obligé de se battre contre des Arabes si la nécessité s'en faisait sentir un jour, surtout en Algérie.
On écoute à présent Zobeida Abou Talb Al-Hassani, cousine de l'émir Khaled, qui pour nous s'est plongée dans ses souvenirs, qui ne sont pas toujours heureux. Elle nous apprend également que l'émir Khaled s'est marié avec sa cousine.
Il est marié avec elle, elle avait 12 ans.
Et lui, il
jeune.
Avait quel âge?
Lui, il avait peut-être 20-25 ans. Oui. Il était encore à l'école de Saint-Cyr, je crois. Et... je ne sais pas exactement.
Donc, elle était mariée, il y a... elle est restée à Alger.
Oui, elle était
à Alger.
Et
lui, il était à Saint-Cyr,
oui,
à Paris.
Saint-Cyr, à Paris.
Ah, oui.
Et son père, il habite à Boussada. Et... même il est mort là-bas. Et... à Qabroumazel, c'est l'Amir Hachmi. Et... l'Amir Khaled. Et...
donc, l'émir Khaled, un gentil mari, un bon papa.
Un beau papa, بالخصوص يعني البنت خديجة كانت عزيزة عليه.
Ils ont fait un mariage d'amour.
Comment?
Ils ont fait un mariage d'amour, donc.
Ah oui. Je crois qu'un mariage d'amour.
Oui.
Parce que ma tante, elle était toute jeune. Il y avait 4 sœurs.
Et
elle, elle est la plus jeune. Elle avait 12 ans.
Oui.
Elle s'amuse avec... ses petits amis, il l'a vu. Et il est venu la demander en mariage. ما حبوش يعني عندها أخوها الكبير عمي محي الدين الله يرحمه كان قاضي في شاتو دانجيغيمال اللي درك بسمواش لهم العيد ما حبوش قالوا صغيرة قال لهم نديها إلا ما تحبوش تعطيوها لك نصيبها تلعب مع صديقتها نفذها ونروح وليد عمهم ما يقدروش يخيروا عليه عطاوها له ومن بعد خواتها تزوجوا الكبيرة عمتي أمينة هذيك كانت زوجت وبات زوجها و... وعندها بنت من بعد من بوسعادة سكنوا في المدية كما الأمير هاشمي سكنوا في المدية من المدية جاءوا للجزائر سكنوا في حي بلكور من بعد في القصبة سيدي عبد الرحمن ومن ثم صار المنفى في 23
قالوا لنا سيتي ان بو غارسون سيتي ان بو غارسون لي ميخالت
Oui, il était comment? Il était brun.
Brun, oui.
Brun, avec une barbe.
Oui.
Lui et mon père, ils se ressemblaient, on dirait, deux gouttes d'eau.
Oui. Grand, petit?
Comment?
Il dit grand, petit?
Non, moyen. Marbouakat. Moyen. Il n'est pas trop grand. Oui. Maintenant, je vais essayer ça. Les canons s'habou d'arôme, allez. بعث له ولي العام
صحابه جزائريين
نعم
صحابه
دي
زالجيريان
دكتور بنت هامي ودكتور تمزالي هادو كانوا معاه من بعد جبدوا رواحهم لما
وعلاش هما خافوا
خافوا معلو بيخافوا القوة تغلب يا بنتي
1897 à la sortie de Saint-Cyr L'Aimé Khaled refuse de se naturaliser français et devient à titre indigène sous-lieutenant, d'abord, puis lieutenant 5 ans après. Il est affecté au régiment des Spahis à Médéa, puis détaché au 5e chasseur d'Afrique à Mustapha. Il y resta 7 ans. Mansour, l'Aimé Khaled avait-il bonne audience dans l'opinion publique ?
L'Aimé Khaled, même sous l'uniforme français, profitait d'une mauvaise audience dans la presse française. Ainsi, un article du Figaro attirait l'attention sur l'attitude anti-française de l'Aimé Khaled. Le journal Le Travailleur du 10 janvier 1895 dénonça l'attitude de Khaled avec les termes suivants. Les propos suivants furent tenus par le jeune monsieur en présence d'un honorable Européen et du fils d'un notable et très estimé indigène d'Alger. Le drapeau de la France, disait le jeune corpurchic musulman, « J'y crache dessus ». Ces paroles sont malheureusement textuelles et les témoins pourront d'autant mieux les certifier que leur indignation ne connaissait plus de limites. Or, si le père tend la main pour mendier un supplément qui lui permette de solder ses dettes, c'est que sans doute le petit-fils d'Abdelkader ne se gêne pas pour faire danser les beaux écus trébuchants neufs que paye à son papa cette bonne vache allée, la France, sur le drapeau de laquelle ce pouilleux fin de siècle veut bien cracher, croyant dans son orgueilleuse petitesse être assez grand pour pouvoir l'atteindre et le salir. Que son crachat, comme le dit le proverbe normand, lui retombe sur le nez.
On écoute M. Kavash, l'historien.
En Algérie, Khaled était venu après la deuxième, vers le 18-17, il avait été réformé, il avait fait son service militaire, était capitaine, il avait fait la guerre, était réformé et il est venu en Algérie. Et en Algérie, fils de grande famille, fils de l'émir Abdelkader, il a été considéré par les jeunes Algériens comme leur chef, comme leur porte-parole. Et c'est lui qui a le mieux exprimé les aspirations des Algériens. à l'époque. Les aspirations des Algériens, bon, il y en a deux sortes. Des aspirations qui se situaient dans le cadre légal, et c'était la reprise du programme des jeunes Algériens. Égalité dans tous les domaines, représentation au Parlement, citoyenneté dans le statut musulman. Voilà, en gros, les réclamations des jeunes Algériens, et il les avait repris à son compte. Mais ce qu'il avait de particulier, c'est qu'il avait, il les avait repris avec plus d'intensité. Et dans ses contacts avec la population, dans ses meetings, ses réunions, bien, il faisait souvent appel au combat de son grand-père. Et il appelait les gens à suivre la voie tracée par son grand-père. Déjà, cette allusion à l'action menée par son grand-père, c'est une allusion au combat politique. Dans le temps de son journal, je pourrais peut-être vous citer quelques expressions où il dénonce avec une violence caractérisée, une violence dans le verbe qu'on ne retrouve que qui était digne de la période du nationalisme algérien dans les années 45 et c'est jusqu'à 54. Une grande violence dans la dénonciation de l'indigénat dans un grand journal. Également, dans les votes, dans les élections, eh bien, sa propagande était axée sur la personnalité algérienne, cet appel à recréer la Nahda algérienne, cet aspect à reparler, de parler toujours de l'islam et de la personnalité. Et puis, il y avait également des références, en particulier lorsque il avait écrit à Wilson où il demandait la représentation de l'Algérie. C'était évidemment l'Algérie musulmane. Et quand on lui a reproché cela, quand on lui a dit ça, c'est une manifestation anti-française, bon, il a dit, je ne vois pas pourquoi l'Angleterre veut faire participer ses dominions alors que vous, les Français, vous vous opposez à la représentation de l'Algérie. De toute façon, le gouvernement algérien, les administrateurs en français en Algérie, l'administration algérienne a vu, et alors là nous avons de multiples rapports de police, a vu dans Khaled un agitateur anti-français, un agitateur représentant du nationalisme algérien. Et c'est cette perception, Khaled représentant du nationalisme algérien, qui a été à l'époque celle de la population, celle des jeunes. Je me rappelle lorsque des jeunes nous criant, des défilés étaient organisés spontanément dans la Casbah en faveur de l'émir, c'était au nom de Lion Sar Si Khaled, que Dieu donne la victoire à Si Khaled. Si Khaled était considéré comme le militant, le patriote, qui avait repris le combat contre les Français.
1904, l'émir Khaled est sur sa demande rendue au 1er régiment de Spahis et envoyé en 1905 dans les Chaouias. Il est trois fois cité et trois fois proposé pour le 3e galon et la croix militaire. Il prend part avec son régiment aux opérations du Maroc. 1908, l'émir Khaled est promu capitaine, mais l'administration le tient à l'écart, ne voulant pas de ses services. L'année suivante, il prend parti pour le sultan du Maroc Abdelaziz contre le prétendant Moulay Hafid. 1910, l'émir Khaled démissionne de l'armée. Moulay Hafid étant devenu sultan, la présence de l'émir au Maroc fut jugée indésirable. 1911, il revient sur sa démission. 1912, l'émir Khaled dépose une demande de congé de 3 ans et voulut retourner en Syrie. Le général Bayou le prit alors comme officier d'ordonnance. On écoute Mme Bouza Khazbadi, professeure à l'école normale supérieure, et la question que nous aimerions lui demander, était-il un provocateur ?
Provocateur, certainement. Mais cette provocation, moi je crois qu'elle était... ça me gêne de parler de provocation. Je crois que c'était un révolté qui ne pouvait pas. Qui ne pouvait pas taire certaines de réactions. C'était un épidermique. Hein. Agitateur... oui, aux yeux de l'autorité, certainement que c'était un agitateur, il dérangeait. Il dérangeait parce qu'il savait dire non et il savait dire ce qui n'allait pas. C'était un résistant, il résistait, il y a juste une anecdote. Il refusait de porter l'uniforme français en Algérie. Et ça, c'est très révélateur. Ça veut dire que c'est un comment on appelle ça, je ne trouve pas le mot, un mutin. Il a l'esprit d'un mutin. Il refuse de porter... Non, en Algérie, il s'habille comme un Algérien. Et ça, c'est un détail qui est important. Donc, ce sont des petites actions qui sont éparpillées, hein, qui sont disséminées, mais qui, à la longue, par accumulation, donnent une image, une idée du personnage. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce dont il a hérité, c'est-à-dire c'était un témoin, le témoin donc de la débâcle familiale. Ces privilèges que l'on peut percevoir d'une manière réductrice comme ayant été des privilèges, donc qu'il était un statut particulier vis-à-vis de l'autorité coloniale, il était fort cher payé car il refusait de jouer le jeu du privilège. Il dénonçait les injustices auxquelles il pouvait assister et desquelles il était informé, les injustices de ses frères musulmans algériens. Et c'était très mal toléré par l'administration. C'était quelqu'un qui disait tout haut ce qu'il pensait. Il n'a pas mené... Et là où son rôle était difficile, c'est qu'il n'a pas mené une vie clandestine. Et c'est là où son rôle devient plus important, parce que faire de l'action... mener une action politique ou faire de la guérilla simplement, il y a quand même cet aspect de la clandestinité, cet aspect de l'anonymat. Lui était en quelque sorte quelqu'un qui travaillait à visage découvert. Donc l'action est d'autant plus difficile à mener que l'on est connu. Et c'est en cela que son rôle était important, parce qu'il ne faisait pas, il menait pas d'action clandestine ou anonyme.
En 1913, surveillé par l'administration coloniale, l'émir Khaled renouvela sa demande de congé. Il en obtint un exceptionnel de 3 ans. À Alger, il prend contact avec les jeunes Algériens et leur fut très lié. Il fait une tournée de conférences à Paris sur la situation des musulmans. Là, Mansour, la question que j'aimerais vous poser, quel a été le contenu des conférences ?
Dans les conférences faites à Paris en décembre 1913, Khaled formule pour la première fois ses idées politiques. Il réclame pour les Algériens les mêmes droits que ceux accordés aux Français. Il plaide l'urgence des réformes politiques à accorder aux musulmans. Il dénonce également le régime colonial qui nie une race qui a eu un passé et une histoire et nie un peuple qui n'a renoncé ni à sa religion, ni à ses traditions et qui veut rester lui-même. Émile Khaled ajoute « Quand nous pouvions croire notre histoire terminée, elle recommençait avec vous, comme la vôtre au temps de vos ancêtres gaulois recommença avec Rome. Nous acceptons les arrêts du sort et nous pensons que l'intelligence et la force des races ne seront jamais tenues pour des quantités négligeables tant que le monde aura besoin d'intelligence et de force. »
On écoute Mahfoud Khadesh, l'historien.
C'était un précurseur du nationalisme, en ce sens qu'il a défendu avec une force, une fougue et une violence jamais vues jusqu'à ce jour, la situation des musulmans et présenté les revendications des musulmans algériens. Et je vous ai dit, lorsqu'il s'adressait à la population, il y avait un pathétique, il y avait un sens, un appel à la résistance de son grand-père et par conséquent à la résistance du peuple algérien, qui n'a pas trempé la masse des Algériens et qui a fait sa popularité, qui explique le résultat des élections. Les premières élections en 1919 à Alger, c'est la première fois qu'aux élections municipales, on a voté non pas sur des personnalités, mais on a voté sur un programme. Avant, on votait pour Monsieur X, Monsieur Y, de telle famille, parce qu'ils pouvaient vous rendre tel ou tel service. Mais cette fois, avec l'émir Khaled et sa liste, le vote s'est fait sur le problème de la naturalisation, en disant, nous sommes contre la naturalisation, et voilà les raisons, et parmi les raisons, c'est cet attachement à l'islam, qui est un critère essentiel de la personnalité algérienne. Et de l'autre côté, face à l'émir Khaled, il y avait une liste qui prônait la naturalisation et qui prônait la citoyenneté française dans le statut personnel français. Khaled les a combattus et le peuple a voté contre ce qu'il a appelé les mtornés, les naturalisés. Ça, ça a été une de ses premières victoires. Et il y a eu aussi pas mal de victoires d'élections au conseil, aux délégations financières et au conseil général pour lui et pour les amis qui l'ont suivi.
On écoute Zoubida Boutaleb Al-Hassani, sa cousine. Elle nous raconte comment il était perçu dans sa ville et même à travers tout le territoire algérien.
Ah, chab kamel ma kan ma'a. Kan hado l'agniya, kol al délégation. يحبوا هما واحد منهم يكون ديليغي اي في الجمعيه نتاع ما نعرف واش النواب ولا كونسي مونيسيبال ولا ما نش عارفه إيه. اما لا هو يعني من جبلتهم يحبوا يطيح واحد منهم يطلع ما طحش ما قدرش يطيح. النهار اللي يبدا الفوت الجزائر تتهول الدراري في الزنق نتاع القصبة يجري ويعيطوا الله ينصر الأمير خالد الله ينصر الأمير خالد ويجيب ليهم هذا تشكيكن وبن علي والحلوي وكل يعطيهم الدراهم ويقولوا لهم قولوا الله ينصر فلان ياخذوا الدراهم ويروحوا يجري ويعيطوا الله ينصر الأمير خالد وشراوا له حتى اللي يقتلوه واحد من القتالين تبعوا قداش مرة خاطر يسهر ويطلع في ساعة متأخرة وهذاك يسميوها طريق التوت بالعربيه لا لي ديميغي يعني شويه رجل خاليه ما كاينش الغشي هذا كيما راهي الجزائر درك تبعوا قداش مره واحد النهار قال له ما نجمش قال له يا الامير راه مخلصوني باش نقتلك وانا ما قدرتش نقتلك واش نعمل بهذا الدراهم قال له روح صرفهم على وليداتك
انا كاش خايف
ما بعد ما يخافش الخوف هذا ما يعرفوش الخوف ما يعرفوش ما دخلناش وقداش من واحد كانوا يروحوا للبلدان على برا بلدان القبائل هذا واحد كان من بعد اسكن معانا عمي الحاج ناصيري راحوا لأربعة بنيرات ناضت الشعب ناض وجاو زادمين دار المير باش يفوطيو جا ليه المير قال له هادو راهم كلاونا نكثاهم سينيغال نكثاهم بوليس نكثاهم ما يكسروا داخلين زادمين للبلدية باش يصوتوا طلع عليهم من البالكون قال لهم الهدوء يا ولادي الهدوء الأرض ربي قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم كلكم تدخلوا كلكم تصوتوا بالعقل هذا السيد اللي حكى لي عني حاجة نصيري حاج علي نصيري قال لي داروا لبعضهم قالوا الله واقي سيدي خالد بالامير ذا صحبي او دخلوا وصوتوا بعليناش ودايم هو ينجح يعني في يدي لا ديليغاسيون.
Mahfoud Kvesh, la question qu'on aimerait vous poser, est-ce que les Français ont-ils essayé de l'empêcher de parler?
Lorsqu'il y avait élection, la colonisation était obligée de tolérer le contact entre le candidat et les électeurs. Ça a été les premières manifestations, nos premiers meetings politiques, c'est ça, c'est le contact des associations. Ou bien des conférences qui étaient faites dans des nadis. Ou bien Khaled a fait des conférences en se déplaçant à Biskra, en se déplaçant à Rolizane, en se déplaçant à Tlemcen, où il a pris contact avec ceux qui étaient à la tête du mouvement jeune algérien et qui ont organisé des conférences. Ça a été le début des manifestations politiques publiques.
Donc Nabi Khaled n'a pas demandé le départ de la France, il pensait que c'était trop prématuré et impossible.
Non, écoutez, vous posez brutalement cette question. Je vous dirais, qui est-ce qui a demandé brutalement le départ de la France?
Son grand-père.
Non, ça a été la phase de la résistance armée. Il y a eu une phase, dans les réactions Algérie-France, il y a eu une phase de résistance armée. Résistance de l'armée algérienne, une résistance des Chorfas. Une résistance avec de grands noms, de grands personnages qui ont réussi à soulever une région. La dernière grande, c'est peut-être celle de 1871, peut-être celle de 1880 qui s'est prolongée en 1880, et puis quelques îlots ensuite à la fin du 19e siècle. Ça, c'est le départ de la France. Politiquement, vous ne pouviez pas réclamer au départ le départ de la France. La résistance politique a commencé par protester contre les injustices. Des chicayas pour défendre la langue arabe, pour défendre le sort qui a été fait à l'islam. Ensuite, pour défendre des droits politiques. Et les droits politiques, comme les Français, c'est à la fin du 19e et au début du 20e. Le premier parti qui a posé la question de l'indépendance, ça a été à partir de 27 avec l'étoile nord-africaine. Donc, à cette période, la fin de la Première Guerre mondiale, c'est davantage la maturation de la revendication politique, la maturation des partis politiques. Et dans ce domaine, l'Emir Khaled a été aussi un précurseur parce qu'il a amené les jeunes Algériens à formuler d'une façon très précise. Et là, on le voit dans la lettre qu'il a adressée en 1924 à Herriot, où on le voit préciser les revendications des jeunes Algériens.
L'émir Khaled, agitateur ou dignitaire charismatique, il fut un brillant officier militaire, sera-t-il un aussi bon politicien? Nous vous proposons un titre et un chanteur de l'époque, Cheikh Melk Saïd.
صدود اللين وصادني على قلبي ينظر كيف نعمل يا ناسي وكيف نعمل يا ناسي والهوار الشاني حملي ثقيل شلة ما نصبر ولا دوا ينفع بسي ولا دوا ينفع بسي طبيب يقولوا هذا حكيم بالقصد يخبر عاد يسقيني كسي وعاد يسقيني كسي والبهابين الشمعة والقطيعة ومطار بالخمر أهل السين الفسي أهل السين الفسي صفوا بجمعكم وبيعوا للسلطان المشور بالمحاسن سوي ناسي بالمحاسن سوي ناسي كولومبيا إذا يغيب على عيني من هويت في قلبي يحضر بعده لي وهواسي بعده لي وهواسي يتركني ساعة كان يقول هذا غير غدر ما يبرد مقياسي ما يبرد مقياسي غير ريق لما تدا تقبل من في غير الثور بالورد سكول مسي بالورد سكول مسي